soit tes paroles qui sortent de ma bouche. Seigneur, c'est toi qui inspires, c'est toi, Seigneur, qui ordonne. Et aujourd'hui, Seigneur, on veut apprendre de toi. Alors que ces mots, Seigneur, qui se forment dans ma bouche, soit toi qui les prépares, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On a l'habitude de faire une petite déclaration, mais c'est important parce que ce qu'on va dire de notre bouche, c'est ce qu'il va se passer spirituellement. On a une bonne déclaration à faire avec notre parole. Aujourd'hui, on a une petite feuille qui résume la totalité des versets qui sont importants dans le prêche de ce matin. Ceci, c'est pour éviter de prendre votre Bible et de chercher les versets. Je voudrais qu'on puisse aller vraiment à l'essentiel aujourd'hui, parce que c'est un message important. C'est un message que Dieu m'a mis dans le cœur depuis une bonne semaine, on va dire. Et j'ai essayé de comprendre quelle était la volonté de Dieu et pourquoi il nous a amenés à cela. Donc aujourd'hui, je n'ai pas fait de résumé, ou comme je l'ai fait d'habitude, Pasteur Ken le fait aussi, mais j'ai simplement mis tous les versets importants. C'est à vous ensuite de souligner les versets, de prendre des notes si vraiment vous pensez qu'il faut le faire. Alors le message de ce matin, on va le faire ensemble. C'est pas moi qui vais vous le donner, c'est vous qui allez le recevoir. Et cette déclaration, donc, on la fait maintenant. Donc si vous avez la feuille, c'est très bien. Si vous avez la Bible, c'est encore mieux. Seigneur, on te présente notre Bible, Seigneur. C'est la parole de Dieu. C'est toi, Seigneur, qui nous l'a donnée. Seigneur, pour apprendre, pour être transformé. Nous savons que ce que la parole de Dieu dit, que je peux être, je le suis par la foi. Que ce que la parole de Dieu dit que je peux avoir, je peux le prendre par la foi. Et Seigneur, maintenant cette parole qui rentre en moi, elle est scellée dans le Saint-Esprit. Et jamais plus je serai pareil. Parce qu'elle va me transformer. Jour après jour. Amen. Alors, le message de ce dimanche, en fait, est une première partie d'un message qui va se dérouler en deux étapes. C'est un message que j'ai vraiment à cœur de vous parler ce matin. Et je pense d'ailleurs qu'il correspond vraiment à un flot de l'esprit que l'Esprit de Dieu veut amener dans ses églises en ce moment. Le thème, c'est « Prends ce que tu as reçu ». Et c'est vraiment ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, prends ce que tu as reçu. Tu ne prends pas ce que tu as reçu. Alléluia. On a un verset clé, qui se trouve dans la page, dans vos Bibles, dans Éphésiens 1, 3. C'est vraiment là, ce verset qu'il faut bien méditer, je dirais, dans la semaine. En tout cas, ce matin, on va déjà le prononcer de notre bouche, parce qu'on veut qu'il agisse. Éphésiens 1, 3. Je vais vous le lire. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit, soulignez Esprit, de toute plénitude de dons célestes. Il l'a fait. Il a déversé d'en haut sur nous, qui vivons en communion avec le Christ, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. C'est la version parole vivante. Toutes les bénédictions que les cieux contenaient. Toutes. Alors, regardez, quand vous recevez un énorme paquet, par exemple, vous le recevez par bateau. Vous savez, vous êtes avisé de son arrivée. C'est un conteneur énorme, mais vous n'avez pas encore ce paquet. Il est à votre disposition, mais vous ne l'avez pas encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se déplacer pour aller le prendre jusqu'au quai de débarquement ou jusqu'à l'entrepôt du port. Si par exemple ça arrive par bateau, c'est ce qui se passe. Et c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé au Canada. On m'a informé que mes nombreux paquets étaient arrivés et il a fallu que j'aille les chercher à un endroit bien précis. Eh bien, en ce qui concerne les bénédictions, c'est exactement le même principe. Par la foi, vous recevez, et par la persévérance, vous allez les chercher. C'est très simple. Vous me direz, mais c'est simple. Mais alors, si c'est si simple, pourquoi aujourd'hui j'apporte ce message? La raison, la bonne raison, c'est que, on la trouve d'ailleurs dans Osée 4-6, c'est que par Dieu dit, oui, mais mon peuple périt faute de connaissance. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais pourtant, dans nos églises, on a beaucoup de littérature. On a des livres et des livres, des exemples de dizaines d'hommes de Dieu qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses. Et c'est biblique. On trouve ça dans Hébreux 6, au verset 12. De sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et on se dit que oui, si c'est possible pour eux, c'est possible pour moi. Et j'ai rien d'autre à faire pour avoir la même chose. C'est vrai que si c'est possible pour l'un, c'est vrai que c'est aussi possible pour l'autre. Seulement voilà, on n'a pas vu tout ce que ces personnes ont dû faire pour en arriver là. On a trop vite occulté, vous savez, tous ces petits pas qu'il a fallu ajuster avant d'en arriver là. Et il y a de nombreux petits pas. Alors souvent on essaye, suite à un premier échec, on essaye de comprendre et on se dit ça ne marche pas. Ou même pire, Dieu ne veut pas. Ou Dieu ne me l'accorde pas. Pour une raison que j'ignore, tu ne me l'accordes pas. J'ai même entendu dire parfois, c'est pas un reproche, c'est simplement la réalité de ce que j'ai vécu. J'ai entendu dire, pourquoi suis-je pas encore guéri? J'ai la foi. Ah, si seulement j'étais guéri, je pourrais faire tellement pour le Seigneur. Ah, si seulement j'étais guéri. Et si c'est pas un problème de santé, ça sera autre chose. Ah, si seulement j'avais beaucoup d'argent. Ah, si seulement j'avais au moins $1 million. Qu'est-ce que j'en ferais des choses? Seulement voilà, je ne peux pas travailler, j'ai tout juste de quoi vivre, et je ne peux rien faire avec ce que j'ai. Ah, mais si seulement j'avais au moins un 500 000, je ferais quelque chose pour Dieu. Mais voilà, on ne fait rien. On ne fait rien et on s'attend que Dieu nous donne la provision. Et on ne comprend pas pourquoi on ne reçoit pas. Alléluia. J'ai même entendu dire, ceux-là, qui ne sont pas chrétiens, pourquoi tout leur réussit? Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de tourner tout cela à la dérision, c'est pas ça. Je parle de choses vraies, de choses vécues. Et c'est vraiment pas drôle, pour moi, de voir toutes ces personnes que Dieu aime, que j'aime avec un cœur de pasteur, qui ne pourront peut-être pas avoir les bénédictions que Dieu leur a données, que Dieu leur a réservées pour eux. Car Dieu a entendu leur cri. Et il a pourvu tout de suite. Oui, mais ces bénédictions restent spirituelles. Car on ne sait pas les prendre. Oui, je sais, je fais une caricature volontaire de la situation pour souligner cette situation urgente. Mais aujourd'hui, le travail de l'Église souffre du fait que des chrétiens vivent et témoignent sur leur entourage d'une situation pas forcément de victoire. Alors comment voulez-vous que vos voisins se convertissent à Christ si c'est pour, s'ils le disent, si c'est pour ressembler à ce chrétien qui est toujours en train de se plaindre, qui est triste, Comment vont-ils, eux, ces gens-là que Dieu aime, ces inconvertis, recevoir la parole de Dieu s'ils nous voient, nous, dans une situation pire que la leur? Alors, si vous pensez que je suis dur ce matin, c'est pas vrai. Je suis pas dur et je suis pas là pour vous attrister. Loin de là. Parce qu'il y a un espoir. Alléluia. La seule chose, c'est que je suis tanné de voir Satan voler les bénédictions des enfants de Dieu, de mes frères, et en plus, des personnes que Dieu m'a mis à cœur pour les faire grandir, pour les faire croître. Alléluia. Mes amis, je dis que ce que dit Satan n'est pas vrai. Dieu a pourvu à tout. Il nous a tout donné, tout ce qu'il y avait dans le ciel. Vous voulez qu'on le relise ? Éphésiens 3, il dit, il a déversé d'en haut sur nous, qui vivons dans la communion avec Christ, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Alléluia. Alors c'est fait. Nous avons déjà tout. Il faut juste aller le chercher au bon endroit. Alléluia. Voici une déclaration que je vais vous dire. Toi qui es un homme de Dieu, toi qui es une femme de foi, un homme et une femme de foi, toi qui as demandé, selon les promesses de Dieu, par la foi, que tu es sûr d'avoir reçu, alors je te dis, moi, que Dieu dit que tu as reçu. Et si tu n'as pas encore entre tes mains, c'est pas parce que tu n'as pas assez de foi. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas assez de foi. Ce n'est pas non plus parce que Dieu ne veut pas te le donner. Ça aussi, c'est un autre mensonge. C'est simplement parce que tu n'as pas pris ce que tu as reçu par la foi. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, et la prochaine fois, ça va être dans 15 jours, dans 15 jours, je vais parler de comment réellement prendre ce que tu as reçu. Le but, c'est que tu manges les meilleurs fruits du pays. L'objectif est donné. Maintenant, comment est-ce qu'on va avancer? Alors, on va avancer avec deux pas. D'abord, en répondant à la question, comment être sûr qu'on a bien reçu? C'est bon? On y va comme ça? Deuxième question, c'est comment prendre ce que tu es sûr d'avoir reçu? Alors, comme vous l'avez plus ou moins compris, j'exclus le cas où on ne reçoit pas parce que on n'a pas su demander, ou parce que on demande mal, ou encore parce qu'on demande selon des critères qui ne sont pas la volonté de Dieu. C'est sûr que si on demande des choses hors de sa volonté, on va avoir du mal à recevoir. Mais le problème, s'il est là le problème, on peut en parler en particulier. Et cela se corrige vite, parce que la parole de Dieu, elle est parfaitement claire et tranchante à ce sujet. Regardez, dans Jacques 4, 3, il dit « Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. » C'est sûr que si on demande avec de mauvais motifs, comment voulez-vous que Dieu respecte ce qu'il n'a pas promis? Encore dans Jean 16, 24, il dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » C'est sûr que si vous ne demandez pas en son nom dans le sens selon le cœur de Jésus, alors, ça sera difficile de recevoir. Mais ce matin, nous allons parler de comment recevoir les bénédictions avec certitude. Car, si on n'est pas sûr d'avoir reçu, on ne pourra pas prendre. Vous êtes d'accord? Jusque-là, ça va? Vous me suivez? Ok. Donc, la seconde partie de cette prédication sera consacré à comment prendre ce qu'on a reçu. On va le faire donc dans deux dimanches, parce que la semaine prochaine, nous avons un invité spécial. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, on va partir de l'origine. Et pour recevoir, il faut savoir quoi demander selon les promesses. Il faut savoir quoi demander selon les promesses et croire que Dieu veut nous les donner. Le mot important là, c'est croire. Tu peux changer de diapositive ? Il faut vraiment qu'on ait ça devant les yeux. Le mot important ici, c'est croire. Croire, c'est la clé de tout. Et c'est le début de tout. En effet, regardez, la première condition pour recevoir les promesses en Christ, la première condition, condition de base, c'est de naître de nouveau. Et bien évidemment, pour naître de nouveau, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut croire en Christ. Il faut croire quoi, en fait ? Il faut croire, on va se le rappeler rapidement, c'est toujours bon de se le rappeler, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il faut croire que nous étions tous pécheurs, ayant en nous la nature du péché. Un pécheur, c'est pas celui qui pêche, c'est celui qui a la nature du péché en lui. Que Jésus est venu sur terre comme un homme, exempt de péché. Que sa mort nous a rachetés du péché, de la mort et de l'enfer. Que Dieu, dans sa justice, l'a ressuscité des morts. Qu'il a jeté Satan en spectacle. On voit ça dans Colossiens 2, verset 15. Qu'aujourd'hui, il siège à la droite de Dieu, et que nous, en croyant et en déclarant que Jésus est Sauveur et Seigneur, nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ. Et de ce fait, nous avons un libre accès devant le trône de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu entrer et habite en nous. Voilà ce qu'il est demandé de croire à celui qui veut être pardonné et qui veut rentrer dans la famille de Dieu. Là, on vient de répondre à la question « croire en quoi ?». Mais il y a aussi une autre facette, c'est de croire comment. Il faut croire de notre cœur, comme une révélation qui illumine notre être tout entier. Notre être, c'est-à-dire notre esprit, notre âme et notre corps. L'esprit naît de nouveau, tout de suite. Il est transformé. L'âme doit évoluer. Mais, chose importante, elle n'est plus obligée de se soumettre au désir charnel qui représente notre ancienne nature, celle qui était pécheresse. En effet, celui qui est de nouveau n'a plus cette nature pécheresse en lui. Donc ce n'est plus un pécheur devant les yeux de Dieu. Alléluia. On voit ça dans Galates 6,15. Une seule chose importe, Galates 6,15, c'est d'être un homme nouveau. Ce qui compte, c'est la nouvelle nature que Dieu crée en nous. Il l'a créée, elle n'existait pas. Nous ne sommes plus la même créature. C'est important de voir que nous ne sommes plus pécheurs devant les yeux de Dieu. Avant, nous n'avions pas le choix. Notre nature pécheresse nous entraînait à continuer dans le péché. Mais en fait, on ne s'en rendait pas compte. C'était mal, mais on ne savait pas. Mais cette nouvelle créature que nous revêtons à la nouvelle naissance nous rend libre du péché. Ça ne veut pas dire qu'une fois né de nouveau, on ne péchera plus, tout de suite, parce que la sanctification de l'âme, des pensées, ça va prendre du temps. Mais ça veut dire que si nous péchons encore un peu de temps, nous allons avoir conscience du péché et que nous aurons alors le désir de demander pardon à Dieu. Et Dieu, comme Père, va nous l'accorder. En attendant que nous grandissions un peu pour parvenir à cette sainteté que demande Christ, conforme à Christ. Dans Actes 8, 22, on trouve tout ça. Détourne-toi donc tes mauvais desseins. Dans Romains 6, 1, même chose. Nous sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché ? La troisième question, c'est, on a vu croire comment ? Croire pourquoi ? C'est important de comprendre et de revenir sur la base. Croire pourquoi ? On y a un peu répondu déjà. C'est croire pour recevoir ce plus beau cadeau, le plus beau cadeau qui soit, le plus grandiose, le seul qui va remplir toute votre vie. C'est cette assurance de la vie éternelle, dans la présence affectueuse de notre Père. Alléluia. Jésus dit dans Jean 6, 51 que celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Alléluia. L'homme a été créé pour vivre éternellement avec Dieu et partager avec Dieu une communion parfaite. Communion, ça veut dire une union avec Dieu, comme Dieu. De lui, nous recevons la force et la joie, cette paix que l'on gagne. c'est la seule raison de notre existence sur la terre. C'est de renouer d'une part notre relation intime avec Dieu, et deuxièmement, c'est de faire sa volonté. Et bien sûr, après la nouvelle naissance, est-ce qu'il y a encore des choses qu'il faut croire? Est-ce qu'il y a encore des choses à croire pour recevoir? La réponse est oui. Bien sûr, c'est le premier pas. La différence, c'est que nous sommes devenus, par la grâce, des enfants de Dieu. Et il y a autre chose, beaucoup plus, que Dieu veut donner à ses enfants. Alors, j'ai parlé de la grâce. Paul s'est entendu dire que la grâce lui suffisait. On voit ça dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Mais il a déclaré, ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Et c'est vrai. On va un petit peu détailler dans cette voie-là, pour bien comprendre. Il y a trois sortes de grâce. C'est sûr qu'il y a d'abord la grâce qui vient tout de suite après la nouvelle naissance, et elle est automatique, mais elle s'applique que lorsqu'on comprend ce qui arrive. Elle s'applique dans notre vie, je veux dire. Cette grâce automatique, c'est la justice et l'autorité. Et nous devons d'abord comprendre ce que ça veut dire. Que quand nous devenons justes aux yeux de Dieu, quand nous avons compris ce que ça veut dire, alors ça veut dire que nous revêtons en nous des droits légaux de nous tenir devant la face de Dieu en sa présence. Ce droit légal, cette confiance que nous avons avec le Seigneur en pouvant se tenir fièrement devant lui, sans avoir besoin d'avoir honte, va nous ancrer et nous rendre inébranlables. Pourquoi ? Parce que nous lui faisons confiance. Dieu n'est pas un menteur. Et quand il dit que nos péchés sont pardonnés, oubliés, ça veut bien dire que nous pouvons nous tenir devant sa présence sans avoir honte de nos péchés. Nous venons devant Dieu avec la tête haute. Papa ! Il n'y a aucun reproche dans les yeux de Dieu quand nous nous présentons devant lui. C'est cela la justice de Dieu. Nous sommes devenus justes. Alléluia. Alléluia. Et en plus de ça, Jésus nous a donné son nom, ce qui nous confère une autorité. Une autorité au-dessus de qui il n'y a personne. L'autorité totale. Et ça nous apporte la confiance. Et cette confiance qu'on a, que la parole de Dieu est vraie, que Dieu est fidèle, ça va nous rendre inébranlables. Inébranlables. Et ancrés. Vous savez, quand on est ancré, on est inébranlable. Parce qu'on ne bouge plus. On est attaché. On est attaché dans une bonne chose. Attaché en Christ. Alléluia. Et là, on est inébranlable. Alléluia. Dieu ne change pas. Nous avons confiance en sa fidélité. Alléluia. Hébreux 6 au verset 18, on va le lire. Il est impossible que Dieu mente. Nous trouvons un puissant encouragement dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Une ancre sûre, soulignez le mot sûre, une ancre solide qui pénètre au-delà du voile. Alléluia. Et ça nous ouvre la porte devant le trône de Dieu. Alors c'est sûr que par sa grâce, Dieu nous a offert la justice. C'est-à-dire que nous sommes rendus justes de tout péché, de toute condamnation. On sera donc toujours le bienvenu avec Dieu et on ne sera jamais rejeté ni ignoré. On peut se présenter n'importe quand devant Dieu. Papa, j'ai besoin de toi. Et Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Hébreux 15, verset 5. Alléluia, c'est une bonne certitude. Et une bonne confiance qu'on a. Nous avons cette assurance que Dieu est fidèle, qu'il ne change pas. Il est digne de confiance, vous savez. Alors quand on dit, Dieu n'a pas voulu me guérir, moi je vous le dis, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais au contraire, cette certitude que nous avons est une ancre qui fait qu'on reste bien ancré, que notre position est définitive. Finalement, ce que nous acquérons, c'est une position quand nous sommes nés de nouveau. Une position qui nous amène la justice et l'autorité. Alléluia. Je dis qu'il y avait trois sortes de grâces, on va parler de la deuxième, c'est ce que j'appelle la grâce plus, ou la grâce plus plus. C'est celle qui va assurer notre héritage. Cette grâce, elle est disponible pour tout le monde, pour tous les enfants de Dieu. Et elle s'acquiert par la prise de conscience de notre héritage en Christ, et par la foi sur les promesses qui sont dans cet héritage. C'est sûr que c'est une grâce qui s'acquiert. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Mais il y a plusieurs étapes qu'il va falloir mener de front. Première chose qui est importante, bien comprendre, et de ne jamais négliger, c'est qu'il faut se laisser transformer par la parole. La parole, ce n'est pas du texte. La parole, elle est vivante. Elle est vivante. Ça veut dire qu'elle va vous vivifier. Elle va vous transformer. C'est pas simplement des phrases. La parole a la capacité de vous transformer. La première chose à faire, c'est se laisser transformer par cette parole qui agit. Une succession de mots que Dieu a prononcés, qui, lorsqu'ils sont prononcés, lorsqu'ils sont dits, vont agir. C'est des mots, mais non, c'est des actions. Chaque parole de Dieu est une action. Et ces actions vont vous transformer. Et il faut se laisser transformer par la parole. La deuxième étape, on va aller très vite, mais ensuite je vais un petit peu détailler, c'est de prendre une nourriture spirituelle adaptée à votre état, à ce que vous êtes, équilibrée et suffisante. La troisième étape, c'est de mettre en pratique ce que vous venez de comprendre. Alors là où je voulais en venir, c'est que ces trois étapes, en fait, c'est pas trois buts, ces trois étapes forment une boucle. Et lorsque vous avez terminé la première boucle, je me laisse transformer, je prends de la nourriture pour grandir, je mets en pratique ce que j'ai compris, on recommence, ta-ta-ta, je me laisse transformer, je prends de la nourriture, et je mets en pratique, etc., etc., etc. Jusqu'à ce que Christ revienne. Et ce phénomène, ce processus, ça s'appelle la croissance spirituelle. Et le but visé, c'est la maturité spirituelle. Alléluia. Il faut comprendre que c'est la connaissance qui va vous montrer comment il faut formuler les demandes pour avoir ces bénédictions. La foi va vous permettre de recevoir ces bénédictions. Mais la croissance vous apportera la grandeur et la stature nécessaires pour que vous puissiez prendre ce que vous avez reçu. Alléluia. Et c'est ce que je vais développer la seconde partie de ce message dans 2 semaines. Mais pour l'instant, on va revoir ces trois composantes de ce cycle de croissance. Il faut bien avoir compris ça pour aller plus loin. Alors, position plus croissance va faire que, donc la position, c'est qui je suis en Christ, la justice, avant. On revient à la position d'avant. Voilà, c'est ça. Donc la position, donc, ça signifie qui je suis en Christ, et l'autorité que j'ai avec le nom de Jésus, la position plus la croissance, ce dont on est en train de parler là, ça va faire que vous allez être de plus en plus enraciné. Et vous savez, quand on est enraciné, qu'est-ce qui se passe? Enraciné, c'est je vais en profondeur, là, vers le bas. Plus je suis enraciné, qu'est-ce qui se passe? Et plus je suis en maturation. Plus je suis mature, autrement dit, plus je vais avoir de branches. Plus je m'enracine, et plus mon arbre sera fort. Et j'aurai des branches, et j'aurai des feuilles. Si je veux avoir la maturité, je dois être enraciné dans la parole. Alléluia. Alors, on va regarder ces trois composantes de la croissance spirituelle. On peut dire que c'est comme une courbe hélicoïdale, où on monte dans la maturité, on monte dans la croissance. Première chose, se laisser transformer par la parole. Comment? Pas compliqué. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas compliquée. Dieu n'est pas compliqué. Se laisser transformer par la parole, ça veut dire que on va se mettre à disposition du Seigneur. Comment? En lisant la parole. Par exemple, tous les jours, 5 minutes. Vous savez, 5 minutes par jour, c'est bien préférable à une heure de temps en temps. 5 minutes par jour vaut mieux que quand on peut. Puis, une fois avoir lu cette parole de Dieu, il va falloir la déclarer dans votre vie. Pas simplement la déclarer avec votre bouche comme ça, en n'y pensant pas, mais la déclarer dans votre vie. Ça veut dire que vous la mettez en application dans votre vie. La parole devient action. La parole devient vivante et elle va agir dans votre vie. Les gens vont changer d'attitude vis-à-vis de vous parce que c'est vous qui allez changer et être transformé. Ils vont voir quelqu'un de transformé de nouveau et eux-mêmes vont changer leur attitude parce que vous ne serez plus le même. Amen. Et cela fait intervenir les yeux, la lecture, la bouche parce qu'il va falloir le prononcer ce que vous lisez, les oreilles, parce que lorsque vous prononcez, vous écoutez, et ça rentre. C'est important de déclarer la parole de Dieu, parce que vous l'écoutez en même temps. Et puis en la méditant, en la répétant, jusqu'à ce que des oreilles, ça passe jusqu'au cœur. Amen. Souvent, c'est utile de prendre aussi un crayon et un carnet. Regardez ce que dit Psaume 119, au verset 97. Il dit quelque chose de magnifique. Combien j'aime la loi, tous les jours je la médite. On peut se dire, nous, qui sommes nés de nouveau, chrétiens en tout cas, combien j'aime ta parole, Seigneur, tous les jours je la médite. Combien j'aime ta parole, tous les jours je la médite. Le but, c'est de devenir un accro de la parole. C'est simple parce que, en devenant l'accro de la parole, vous avez la parole dans votre bouche. Comment croyez-vous que Jésus a répondu à Satan dans le désert quand il a été tenté? Il a répondu par la parole? Oui, il a répondu par la parole dans sa bouche. Sa parole était là, elle bougeait dans sa bouche. Oui, lui en plus c'était la parole. Il avait un petit peu d'avantage par rapport à nous. Mais on peut faire la même chose. Lorsque vous avez la parole dans votre bouche, c'est facile de la sortir. Et ça, il faut être accro à la parole. Aimer la parole. Vous savez, souvent, ça aussi c'est... Je rigole beaucoup quand je fais mon temps d'évangélisation personnelle. Souvent, je demande aux gens, mais vous êtes chrétien? Et on me répond, oui, je suis chrétien. Mais non pratiquant. Et puis comme je pense qu'ils doivent voir un petit peu ma figure, ils rajoutent, je suis baptisé. Ok. Le croyant est souvent appelé le fidèle. Mais si tu n'es pas fidèle, c'est que tu ne crois pas en la nécessité d'être fidèle. Donc, tu n'es pas croyant. Un chrétien est un fidèle pratiquant. Il n'y a pas de sous-classe de chrétien, ça n'existe pas. Ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Alléluia. Matthieu 4, 44 dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Vous savez, dans 2 Timothée 3,16 aussi, l'Écriture dit, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Quelle bonne cette Écriture. Nous avons besoin de nous tenir toujours prêts, et plus que ça même, prêts et désireux, et disponibles. Prêts, désireux et disponibles pour Dieu. C'est notre attitude qui va déterminer notre, ça veut dire notre maturité. C'est notre attitude qui va déterminer notre attitude, ça veut dire notre maturité. Alléluia. Vous savez, Paul disait dans Romains 1:11, car j'ai le vif désir. Vous imaginez comment Paul devait dire ça? Car j'ai le vif désir. Il était là à dire, oui! Alléluia. Je le vois en train de déclarer, je me dois, j'ai le vif désir. Et c'est ça que on doit retrouver, la même attitude qu'avait Paul. On doit être toujours prêt, désireux et disponible pour Dieu. Alléluia. Josué invite que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, car alors tu réussiras. Alléluia. Attention à ce que nous déclarons de notre bouche, car nous allons devenir ce que nous déclarons. C'est important. Ça va jusque-là ? Parfait. Alors on va continuer. Le second point, on a vu le premier, se laisser transformer par la parole. Le second point est important aussi, c'est savoir se nourrir de manière équilibrée, sans manquer un repas. Là, je vais faire un petit résumé de 2-3 minutes d'un autre prêche qui a été fait le mercredi 11 juin, qui s'appelait donc « De quoi vous nourrissez-vous ?». Si vous voulez l'intégralité de ce prêche-là, il sera disponible à la table des livres. Donc là, je vais juste faire un petit résumé de l'essentiel. Mais si vous êtes intéressé par ce sujet-là, il y a vraiment plus à développer. Le sujet est vaste. Voici donc ce résumé. La façon de vous nourrir va déterminer ou modifier votre comportement. C'est valable physiquement, c'est valable spirituellement. Vos valeurs, votre environnement, vos habitudes vont déterminer votre appétit et vos goûts. C'est valable physiquement et spirituellement. Jésus se nourrissait pour rechercher de la force et de la croissance. Et d'où est-ce qu'il prenait cette force ? Tout à l'heure, on en a parlé. Il prenait cette force dans la joie, en faisant la volonté de son Père et en accomplissant son œuvre. Je vais le répéter, parce que c'est vraiment important. Comment Jésus se nourrissait ? Comment prenait-il la force pour sa croissance ? Il la prenait dans la joie, en faisant la volonté de son Père et en accomplissant son œuvre. Jean 4, 33. Nous avons 3 repas spirituels à prendre régulièrement. Si on manque de l'un, on va aboutir à une carence de quelque chose. Et quand on a une carence, on va finir par être malade. Et si on est malade, on va avoir de la souffrance. Et si on va avoir de la souffrance, on va perdre la joie. Et si on perd la joie, on n'a plus de force. Si on n'a plus de force, on n'est pas capable de faire la volonté de Dieu pour notre vie. Dans Proverbe 14, verset 22, il est dit « Un cœur joyeux est une bonne médecine, est un bon remède. » Alléluia. C'est important de ne pas perdre sa joie. Si vous perdez votre joie, vous allez perdre la vision. Vous allez être comme dans l'obscurité. Si vous perdez la vision, vous allez perdre l'orientation. Vous allez là, paf, un mur. Et si vous perdez l'orientation, vous allez perdre aussi la communication. C'est-à-dire le guide, le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus de guide, plus de boussole. Vous ne verrez plus rien. Et là, je vous dis, où est-ce que vous allez? On ne sait pas trop. C'est donc important de prendre ces trois repas. Ces trois repas vont nous empêcher d'avoir des carences et d'avoir une nourriture adaptée à notre croissance. C'est-à-dire d'avoir la force pour avoir une croissance harmonieuse. Oui, mais c'est quoi ces trois repas? Rapidement. Il y a le déjeuner. Le déjeuner, c'est le temps de dévotion personnelle. Tous les jours. C'est ce que vous dit le Saint-Esprit quand il vous enseigne, quand vous lisez la parole. Il va vous révéler des choses. Dieu vous parle pendant votre temps de dévotion personnelle. Ça peut être le matin, ça peut être le soir. Mais c'est régulier. Vous avez besoin de ce premier repas. Le déjeuner est important. Partez pas la journée sans déjeuner. Deuxième repas, c'est le dîner. Dîner, c'est d'apprendre en famille. Les ministres, les cinq ministères, les pasteurs, les enseignants sont là pour vous apporter cette nourriture. Tous les dimanches, tous les mercredis, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils sont loin pour ça. Ils ont été préparés pour ça. C'est pas avec leur force qu'ils vont le faire, mais c'est avec l'onction que Dieu leur donne. Alléluia! Ils sont équipés pour faire ça. Ils sont mandatés pour ça, pour vous conduire là où la nourriture abonde. Ils ont été prévus pour ça, pour vous apporter de bonnes choses. Quand vous utilisez un pasteur comme un pasteur, vous allez prendre de son onction, cette onction spéciale de pasteur, pas la sienne, à monsieur. Mais l'onction de Dieu, celle que Dieu a prévue que vous ayez, que vous recevez, celle que Dieu veut vous donner. Vous avez besoin de cette nourriture pour vous préparer pour la moisson, pour recevoir la provision, c'est-à-dire les bénédictions, pour que vous puissiez faire cette moisson dans la joie. Alors pour ce dîner-là, vous avez besoin, certes, des pasteurs ou des enseignants, mais aussi besoin de l'Église. C'est-à-dire, vous avez besoin de vos frères et de vos sœurs aussi. Dans Hébreux 10, 25, la parole dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Si quelqu'un, dans 1 Jean 4, 20, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qui est son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia! L'Église est importante pour le dîner. Et le troisième repas, c'est le souper, c'est la mise en pratique de ce que vous avez compris. C'est le service que vous apportez auprès de vos frères, de vos sœurs à l'Église. Et c'est en donnant que vous allez récolter cette nourriture fine, cette nourriture recherchée. C'est pas n'importe quoi que vous allez prendre. Cette troisième nourriture, le souper, c'est une nourriture fine, une nourriture travaillée, un repas de luxe. C'est lorsque vous servez, lorsque vous donnez, vous avez en retour cette nourriture. Ne vous privez pas de cette troisième nourriture. Cette nourriture du soir, peut-être. elle est importante, elle est aussi importante que les deux autres. Mettre en pratique ce que vous avez compris. Jacques 2, verset 14 dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» C'est un entraînement spirituel qui est nécessaire à la bonne digestion des deux autres repas. Et c'est ce qui va vous donner une croissance verticale, pas une croissance horizontale, non, verticale, très haut. Une croissance verticale, harmonieuse. La bonne nourriture spirituelle, plus une bonne activité spirituelle, va vous apporter cet équilibre qui est nécessaire pour la bonne croissance harmonieuse. Vous savez, il y a des principes spirituels simples qu'on peut déjà appliquer tout de suite. Pas des choses compliquées, mais il y a déjà la base. Il y a au moins deux ou trois petites choses importantes qu'on peut appliquer tout de suite comme exercice spirituel. Le premier, et peut-être qu'il vaut mieux commencer par des choses simples, hein. Le premier, c'est la dîme. La dîme, c'est ce qui appartient à Dieu, et c'est peut-être notre premier engagement. C'est un engagement simple, mais il faut la réussir, cette épreuve. C'est une première étape, et elle est simple à réussir. Le deuxième point, c'est la discipline de vie. Ayez une bonne discipline de vie. Oh, on est dimanche ? Ça ne tente pas de venir à l'église. Oui, mais en ayant une bonne discipline de vie, c'est mon esprit qui commande mon corps. C'est mon esprit qui décide. Je ne sais pas ce que je vais recevoir, mais le Seigneur sait ce qu'il a à me donner. Et la nourriture que je vais prendre ce matin, ce n'est pas moi qui décide si je vais la prendre ou non. C'est le Seigneur qui me la porte. C'est une bonne discipline de vie. Alléluia. Ça ne tente pas. Ça, c'est pas vraiment une bonne discipline de vie. Et la troisième chose, là peut-être que je vais être plus en détail, en tout cas, c'est vrai que c'est important, c'est le plus important, c'est la marche en amour. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. C'est un sujet si vaste, si important. Ce qui est important, c'est de prendre l'habitude de marcher dans l'amour. Comme un réflexe. Quelque chose que le cerveau fait avant qu'il reçoive les informations de ce qu'il doit calculer. C'est une réaction, je dirais, reptilienne de votre cerveau. La première chose que le cerveau fait quand vous vous brûlez, quand vous mettez la main là, sur le feu, c'est lever la main. C'est le cerveau qui vous dit de lever la main. Mais le cerveau ne va pas réfléchir. C'est un réflexe de base. L'amour, ça doit être ça, un réflexe de base. La personne vient me voir, réflexe de base, amour. Ah, combien c'est dur. Et j'en suis le premier qui me suis rendu compte de ça. C'est dur. Alléluia. Alléluia. Mais c'est possible. Réagir en amour, indépendamment de l'événement qui est en place. Qu'il soit agréable ou non, mon cerveau va réagir amour. Première action, amour. Faire de l'amour un conditionnement naturel qui ne va pas dépendre des autres. Mais c'est une décision que vous avez prise de marcher dans l'amour. Alléluia. La marche dans l'amour est importante, tellement importante parce qu'elle bannit la colère, la vengeance, la méchanceté, l'orgueil, l'offense, la tristesse, la peur, le doute. Je pourrais en citer. Des choses qu'on n'a pas besoin. Alléluia. Et en raisonnant comme ça, amour en premier, première réaction, toutes ces choses-là, on les évite. Vous savez, elles sont par terre, mais nous on a un pont là. On passe dessus, on les voit même plus. Alléluia. Et c'est ça qui est important. Alléluia, c'est ça qui est important. Si vous ne marchez pas dans ces principes, votre croissance spirituelle va être chaotique. vous irez à l'opposé de la maturité. C'est important dès le départ, lorsque quelqu'un est né de nouveau, d'enseigner ça tout de suite. Alléluia, il faut le travailler. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. On trouve ça dans 1 Jean 4, au verset 7. Alléluia. Un autre verset, Éphésiens 4, 26. La Bible vous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et surtout, quelque chose que j'ai appliqué, là je l'ai appliqué dans ma vie. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ça, je l'ai appliqué dans ma vie il y a bien longtemps. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Alléluia. Alléluia. Et l'autre point important, c'est le pardon. Regardez dans Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ a pardonné, vous aussi pardonnez. Le pardon. Le pardon du passé. Ah, c'est facile à Dieu de dire tout est oublié. Lui, il peut le faire. Mais comprenez bien, nous avons sa nature, sa capacité. Nous avons sa nature et sa capacité. Si lui peut le faire, nous avons sa nature et sa capacité. Amen. Si lui peut le faire, nous aussi. Amen. On est ses enfants, on est sa créature. Et il nous a fait à son image. Ne dites pas, je ne peux pas pardonner. Ce n'est pas vrai. On peut y arriver. Alléluia.
Amen.
Un autre point, c'est le murmure. On voit ça dans Jacques 3, 2. Jacques 3, 2 nous dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Le murmure. Lorsqu'on prononce des mots, ces mots agissent. Dieu a créé l'univers comment ? Par la parole. Il a prononcé un mot. Il a mis sur ce mot sa foi. Et ce mot qu'il a prononcé a la force de création. Et Dieu nous a fait comme lui, à son image. Ça veut dire que nous avons en nous cette force de création dans les mots. Qu'a fait Adam au paradis ? Qu'a demandé Dieu à Adam ? Il a demandé de nommer les animaux. Pourquoi a-t-il fait ça ? Parce que lorsqu'il a nommé les animaux, il a donné les caractéristiques des animaux. Lorsqu'Adam a prononcé ces mots, ça s'est réalisé. Et nous avons exactement la même chose. Lorsque vous prononcez des mots, ça agit. Ça va conditionner la vie des autres et la vôtre. C'est important de prendre la décision de ne jamais dire de choses mauvaises. C'est difficile. Mais c'est important. Parce que si vous dites des choses mauvaises, vous allez être conditionné par ce que vous dites. Et ça va arriver. Que votre bouche soit que l'objet de bénédiction. De bénédiction, c'est tout. Si nous mettons le mort dans la bouche, je continue Jacques 3:3, des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un petit feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi vos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guéhenne. Important de maîtriser sa langue. Très important. Alors si on essaie de faire un résumé de cette première partie, notre but c'est d'être sûr qu'on a reçu. On veut, le but c'est de prendre les bénédictions. Et pour prendre les bénédictions, il faut d'abord être sûr qu'on a reçu. Est-ce qu'on les a vraiment reçues, ces bénédictions? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on reçoive ces bénédictions? Pour ensuite qu'on puisse les prendre. Le savoir est important. Savoir que ces bénédictions existent est important. Pour le savoir, il faut apprendre. Il faut être docile. Il faut être capable d'apprendre. De se corriger. D'avancer. De grandir. Et ensuite, il faut croire que la parole de Dieu est vraie et que Dieu est fidèle pour respecter sa parole. La foi dans notre position et notre autorité vont de pair. Rajouter avec la pratique, en commençant par les choses simples, en commençant par les dîmes, en commençant par la discipline de vie, quelque chose de moins évident, l'amour. La marche d'amour, la démarche d'amour, ça va vous apporter vers une croissance spirituelle. Et plus vous avancez dans la croissance spirituelle, et plus vous marchez dans la sainteté, la pureté, vous aurez une vie de moins en moins remplie de péché, même si, étant donné que vous n'êtes plus pécheur. Et là, on va commencer à recevoir les bénédictions. Elles deviennent disponibles. On en arrive à tout à l'heure ce qu'on a cité comme verset, notre verset clé, Éphésiens 1:3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. On va être comblé en recevant ces dons célestes. Elles deviennent disponibles. Donc le savoir, c'est une chose, le croire, et la pratique. Et la continuité dans la croissance. Vous savez, si vous avez une croissance qui est chaotique, qu'est-ce que j'appelle chaotique? C'est une croissance, c'est boum! Ah oui, je m'arrête. J'arrête ma croissance, je reste dans un palier, j'en ai assez. J'attends 10 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Oh, trop tard. Ça va jusqu'à plus de 100 ans. Hein. Et si votre croissance, c'est ça, et puis c'est ça, vous n'allez pas très loin. Mais si votre croissance, ça va être plus doux, plus calme, mais sans s'arrêter, vous allez atteindre à un moment donné la maturité. Vous rentrez dans la bénédiction, parce que vous rentrerez dans la sanctification, dans la pureté. Vous aurez une vie sans péché, conforme à l'image de Dieu. Et là, les bénédictions vont venir, parce que vous serez exactement en position pour ça, et prêt à les recevoir, et aussi à les prendre. On a fini cette première partie, qui est donc une introduction, on va dire, à la fois prochaine, dans 15 jours. Et dans 15 jours, on verra vraiment comment on va prendre ces bénédictions. Mais on va voir qu'il y a une façon de faire que ces bénédictions nous courent derrière. Qu'on n'ait même plus besoin de les prendre parce que tout, elles sautent et elles viennent vers nous. On va en parler de ça. C'est possible. Pour ça, il faut, on va le voir la prochaine fois, comprendre ce que Dieu attend de vous. Comprendre ce que nous devons faire de ce que nous avons compris que Dieu attend de nous. Et agir dans la gloire de Dieu. Et là, vous verrez, si vous ne voyez pas de vos yeux, ce que Éphésiens 1:3 dit. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons en la communion avec Christ. Pour qui? Ceux qui vivent dans la communion avec Christ. Communion, en union avec Christ. Dans la maturité. toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Tout le stock. Il y en a. On va donc répéter ce verset. Je crois que c'est important de bien s'infuser de ce verset, de clairement l'avoir dans notre cœur. Et moi, je vous invite vraiment à le méditer, ce verset, comme je l'ai fait pendant pas mal de temps. Éphésiens 1, 3, dans différentes versions. Méditez-le pendant ces deux semaines. On va le relire par plaisir. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Toutes les bénédictions. Merci Seigneur, on te rend grâce Seigneur, parce que tu nous as tout donné. Tu nous as préparé Seigneur. Seigneur, on veut être prêt Seigneur. Prêt Seigneur à prendre ces bénédictions pour assurer Seigneur ta volonté et ce que tu veux dans notre vie. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai dit que la première des choses à faire importantes pour recevoir la bénédiction, le premier pas, c'est la nouvelle naissance. Peut-être que dans l'assemblée, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que la nouvelle naissance. À ce moment-là, peut-être que je les invite à venir, on va prier pour que ces personnes-là rentrent dans la famille de Dieu. Alors, je ne sais pas, est-ce que dans l'assemblée, il y a des gens qui voudraient donner la vie, sa vie au Seigneur, qui voudrait faire de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur. Si c'est le cas, venez là tout de suite. Il n'y a plus de temps à perdre. C'est important de le faire maintenant. De ne pas laisser une minute de plus. On te rend grâce, Seigneur. Parce que c'est toi, Seigneur, qui nous a suscité, Seigneur, pour que on puisse rentrer, Seigneur, dans ton royaume. Seigneur, on sait que tu nous as préparés pour ça. Seigneur, donne-nous cette force, ce courage pour annoncer la bonne parole. Même des fois que ce n'est pas facile. Mais Seigneur, nous savons que si nous commençons, Seigneur, à faire ton œuvre, à faire ta volonté, nous savons que les bénédictions sont derrière nous, qu'elles nous suivent et qu'elles sont là, Seigneur, pour apporter la provision de ce que tu nous demandes de faire. Alors Seigneur, suscite-nous, Seigneur. Prépare-nous, Seigneur. Et envoie-nous, Seigneur, vers ceux qui ont besoin, vers ceux qui sont écrits dans le livre de vie, Seigneur, qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle, d'entendre que parce que toi, Seigneur, tu es venu sur la terre, tu as pris nos péchés, tu es mort sur la croix. Aujourd'hui, on peut se sentir libre de marcher vers le trône de Dieu et de dire, Papa, je t'aime. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Je...